Bonjour à tous et bienvenue dans cette édition du Monde aujourd'hui qui vous apporte les dernières nouvelles et les développements majeurs en Afrique et à travers le monde. Au micro, Nanit Talani, au sommaire, Sénégal, Malick Ndiaye, élu président de l'Assemblée nationale, Sonko conserve son poste de Premier ministre. Sommet tripartite à Luanda, Kagame, Tshisekedi et Lourenço pour relancer la paix en RDC. Joe Biden met en avant le couloir de Lobito en Angola pour renforcer les liens entre les États-Unis et l'Afrique. Trump menace une réponse sévère si les otages de Gaza ne sont pas libérés avant janvier. La communauté Tiefo se mobilise pour préserver sa langue en danger au Burkina Faso.
Tiefo Boa, c'est le premier chef de guerre. C'est par son intermédiaire que la langue Tiefo a commencé à disparaître. Parce que quand il a été initié à Kong, ce sont les Yula.
À suivre dans nos dossiers du jour, page Echo, un partenariat stratégique entre Abuja et Paris pour développer des minéraux critiques. N'oubliez pas le sport, voici le journal. Le Premier ministre sénégalais Ousmane Sonko a annoncé qu'il choisirait de rester à la tête du gouvernement plutôt que de devenir président de l'Assemblée nationale, mettant ainsi fin aux spéculations sur son avenir politique après sa victoire, celle de son parti, le PASTEF, aux législatives. En raison de l'incompatibilité entre les fonctions parlementaires et gouvernementales, M. Sonko sera remplacé à l'Assemblée par un autre membre de son parti. Par ailleurs, Malick Ndiaye, proche de Sonko, a été élu président de l'Assemblée nationale, devenant ainsi le deuxième personnage de l'État. La Guinée a déclaré 3 jours de deuil national après la mort de 56 supporters de football dans un mouvement de foule survenu lors d'un match en l'honneur du chef de l'État, Mamadi Doumbouya. L'incident survenu à Nzérékoré dimanche a été provoqué par des tensions liées à des décisions arbitrales déclenchant des heurts parmi les supporters. Le gouvernement a lancé une enquête pour déterminer les causes de cette tragédie. Le FNDC a imputé la responsabilité de l'incident aux militaires au pouvoir qu'il accuse d'instrumentaliser le sport à des fins politiques. Le président américain Joe Biden est arrivé hier lundi à Luanda, capitale angolaise, pour la première et seule visite de son mandat en Afrique. Joe Biden avait promis en 2022 de se rendre sur le continent africain. Plus de détails avec Eric Maniragiza.
Monsieur Biden doit s'entretenir ce mardi à Luanda avec son homologue angolais João Lourenço et prononcer un discours au musée national de l'esclavage qui borde l'océan Atlantique. Demain mercredi, il se rendra à Lobito, ville portuaire à environ 500 km au sud de Luanda, pour vanter un investissement phare de sa présidence en Afrique, une gigantesque liaison ferroviaire connue sous le nom de couloir de Lobito. Ce voyage de 2 jours, 50 jours avant que le président ne cède le pouvoir à son successeur Donald Trump, se veut une affirmation des ambitions des États-Unis en Afrique face aux investissements géants de la Chine. Son voyage est le premier d'un président américain sur le continent depuis 2015. Par ailleurs, jamais un chef d'État de la première puissance mondiale ne s'était rendu en Angola. Le porte-parole du Conseil de sécurité nationale de la Maison-Blanche, John Kirby, parle d'une visite historique, assurant qu'elle reflète la priorité donnée par le président Biden au renforcement des alliances et partenaires internationaux des États-Unis.
Un nouveau sommet sur la poursuite du processus de paix dans l'est de la RDC va se tenir le 15 décembre à Luanda, en présence des présidents rwandais Paul Kagame et congolais Félix Tshisekedi, a annoncé lundi la présidence angolaise. Jean-Roger Bion nous fait le point.
L'initiative de ce sommet tripartite du président angolais João Lourenço, désigné médiateur par l'Union africaine, sous la houlette de l'Angola, la RDC et le Rwanda, qui ont signé un fragile cessez-le-feu début août, ont approuvé un document clé pour la poursuite du processus de paix dans l'est de la RDC. Malgré les violations du cessez-le-feu, la RDC et le Rwanda maintiennent le dialogue via l'Angola. Les deux voisins ont acté début novembre la désignation d'un comité de suivi des violations du cessez-le-feu dirigé par l'Angola et intégrant des représentants de la RDC et du Rwanda. La semaine dernière, les ministres des Affaires étrangères de la RDC et du Rwanda ont approuvé le concept d'opération, un instrument clé censé fixer les modalités d'un éventuel désengagement des troupes rwandaises présentes sur le territoire congolais, selon le chef de la diplomatie angolaise. Ce document guidera la mise en œuvre du plan harmonisé censé ramener la paix entre les deux pays voisins.
Human Rights Watch accuse les autorités de l'Éthiopie d'avoir réduit à néant l'espace civique dans leur pays après la suspension de 3 ONG indépendantes de défense des droits humains. Davantage avec Michel Joseph.
Le Centre pour l'avancement des droits et de la démocratie, l'Association pour les droits humains en Éthiopie et les avocats pour les droits humains ont reçu depuis le 14 novembre 2024 des lettres de l'autorité des organisations de la société civile les obligeant à cesser leurs activités, rapporte Human Rights Watch dans un communiqué. Les trois organisations sont accusées d'être politiquement biaisées et de se livrer à des activités qui portaient atteinte à l'intérêt national. La dernière mesure gouvernementale montre que l'Éthiopie reste l'un des endroits les plus inhospitaliers pour critiquer les actions du gouvernement et promouvoir les droits humains, a souligné Human Rights Watch, en appelant à une levée immédiate de la suspension des 3 ONG éthiopiennes. Pays de 120 millions d'habitants, l'Éthiopie fait face à plusieurs conflits armés, notamment en Amhara et en Oromia, deux de ses régions les plus peuplées.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
9 personnes ont été tuées hier dans des frappes israéliennes sur des villages du sud du Liban en réponse à des tirs du Hezbollah. Israël a dénoncé les tirs du Hezbollah comme une violation grave du cessez-le-feu en vigueur depuis le 27 novembre et a promis une forte riposte. Washington et Paris, garants de la trêve, ont exprimé leur inquiétude face aux violations mutuelles du cessez-le-feu. Donald Trump prévient que le prix à payer sera terrible pour les groupes palestiniens de la bande de Gaza si les otages ne sont pas libérés avant son entrée en fonction le 20 janvier. Davantage avec Eddie Isango.
Si les otages ne sont pas libérés avant le 20 janvier, les prix à payer sera terrible au Moyen-Orient et pour les responsables qui ont perpétré ces atrocités contre l'humanité, a écrit le président élu américain sur sa plateforme Truth Social. Donald Trump promet dans sa mise en garde de frapper les responsables plus durement que quiconque dans la longue et riche histoire des États-Unis d'Amérique. Libérer les otages maintenant, martèle-t-il dans son poste. Jusque-là, l'administration du président sortant Joe Biden a opté pour une diplomatie exhaustive qui n'a pas réussi à ses jours à obtenir un accord qui mettrait fin à la guerre d'Israël à Gaza et libérerait les otages capturés il y a 14 mois. Trump a promis un soutien indéfectible à Israël et de s'est passé des critiques occasionnelles de Biden, mais a également parlé de son désir de conclure des accords sur la scène internationale. L'assaut du Hamas le 7 octobre 2023 a fait 1208 morts, principalement des civils, selon l'AFP. Les militants ont pris 251 otages lors de l'attaque, dont certains étaient déjà morts. Parmi eux, 97 sont toujours détenus à Gaza, dont 35 selon l'armée. Des responsables palestiniens de la santé de Gaza font état de plus de 44 000 morts dans l'enclave depuis le début du conflit.
Une juge du Delaware a une nouvelle fois rejeté le plan de rémunération de 55,8 milliards de dollars accordé à Elon Musk par Tesla malgré l'approbation de la majorité des actionnaires. Tesla a annoncé son intention de faire appel, tandis qu'Elon Musk a exprimé son désaccord en soulignant que les actionnaires et non les juges devraient avoir le dernier mot. La juge a également ordonné une indemnisation de 345 millions de dollars à l'avocat de l'actionnaire ayant contesté la rémunération. Les États-Unis ont annoncé une aide militaire supplémentaire de 725 millions de dollars pour l'Ukraine, incluant des missiles et des mines antipersonnelles. Le gouvernement Biden souhaite accélérer les livraisons avant l'investiture de Donald Trump avec un objectif de 6 milliards de dollars d'ici janvier. Les appels à la désescalade se sont multipliés lundi face à l'offensive fulgurante des rebelles qui se sont emparés de vastes régions du nord de la Syrie, faisant craindre une reprise des combats à grande échelle après plus d'une décennie de guerre civile. Voilà pour les nouvelles. Vous suivez le journal sur VOA Afrique et voaafrique.com. Maintenant, bienvenue dans notre section économique avec Eric Manirakiza.
Le Nigeria et la France ont signé un protocole d'accord axé en partie sur le développement d'une chaîne de valeur des minéraux critiques. Le Nigeria héberge pour 700 milliards de dollars de ressources minérales, y compris le lithium, métal critique essentiel à la transition énergétique. Le protocole d'accord prévoit des projets conjoints d'extraction et de traitement soutenus par un cofinancement des secteurs publics et privés. Les États-Unis ont annoncé lundi de nouvelles mesures de restriction à l'exportation vers la Chine de semi-conducteurs afin d'entraver la capacité de la Chine à acquérir et produire les technologies nécessaires à sa modernisation militaire, a annoncé le département du commerce. À partir de janvier 2025, le Qatar va fournir 3 millions de tonnes de gaz par an à la Chine, selon les termes d'un accord avec Shell, basé à Londres, a annoncé lundi la Société énergétique publique de l'Émirat. Le Qatar est l'un des principaux producteurs mondiaux de GNL, aux côtés des États-Unis, de l'Australie et de la Russie. Les pays asiatiques, avec la Chine, le Japon et la Corée du Sud, sont le principal marché du gaz qatari.
Restez avec nous pour ne rien manquer de l'actualité sportive avec Yakuba Ouédraogo. Bonjour Yakuba.
Bonjour Nanit, bonjour à tous.
Du handball au menu ce matin avec la dernière journée de la CAN féminine qui se dispute à Kinshasa en RDC.
Oui, des rencontres alléchantes qui vont déterminer les places encore à prendre pour les quarts de finale. On fait le point avec notre consultant sportif Élisée Nkpatin.
Ça va se jouer pour les quatre finales entre les quatre premiers de chaque groupe. Donc, il faut faire partie des quatre premiers pour assurer sa qualification pour les quarts de finale dans le groupe B que vous avez évoqué. On a déjà trois équipes qualifiées. L'Angola avec trois succès. Le Cameroun, la RD Congo. Maintenant, ça va se jouer entre la Tunisie et la Guinée. Donc, un dernier match où les deux équipes vont se disputer ce seul ticket à distance. Ça s'annonce donc compliqué pour les Guinéennes qui sont classées actuellement cinquième. Dans la poule A, le Sénégal navigue seul dans ce groupe-là avec quatre succès d'affilée. Vous imaginez les Sénégalaises qui font office de favorite pour aller défier l'Angola pour ce titre-là. Donc les Sénégalais sont premiers dans ce groupe-là, suivi de l'Égypte et du Congo. Le dernier ticket va se jouer entre le Cap-Vert et bien sûr l'Algérie. C'est la dernière journée des matchs de poule. On aura un duel à distance entre bien évidemment les Algériennes et les Cap-Verdiennes. L'Algérie joue le Kenya déjà éliminé avec zéro victoire pour le moment. Et puis, le Cap-Vert fera face à un gros morceau. Il s'agit de l'Égypte. Le dernier match mettra aux prises le Congo-Brazzaville au Sénégal, déjà assuré de terminer en tête dans ce groupe A.
Élisée Mpatin, consultant sportif. Le Sénégal reste ainsi invaincu dans le groupe A. Après quatre victoires en quatre matchs, pour notre consultant sportif Amdinsi, les Lions de la Teranga doivent mieux faire et aller chercher ce titre qu'attendent depuis longtemps les Sénégalais.
Le Sénégal qui domine quand même ce groupe A de la tête et des épaules, car les Lions ont respectivement dominé le Kenya sur le score de 39-9, le Cap-Vert 37-22, l'Égypte 21-16 et enfin l'Algérie 23-16. Donc le Sénégal est déjà qualifié alors que les Lions doivent jouer leur dernier match contre le Congo-Brazzaville. Donc les Sénégalais sont sûrs et certains de jouer quand même les quarts de finale. Mais là n'est pas le problème, puisque le problème pour les Lions du Sénégal, c'est de gagner cette Coupe d'Afrique des Nations pour la première fois de l'histoire, comme l'ont fait les Lions du football en 2022 au Cameroun, puisque le Sénégal court derrière ce trophée depuis très longtemps. Mais à chaque fois, il y a une équipe qu'on appelle l'Angola qui se dresse devant cette belle équipe du Sénégal. Est-ce que cette équation sera résolue cette année? Oui, c'est-à-dire, en tout cas, les Lions sont bien partis.
Amdine Sy, consultant sportif.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Nanit Talani, toujours avec vous. De la suspension des déguerpissements à Abidjan à la lutte contre la dépollution des plages au Gabon, en passant par la préservation de la langue Tiefo au Burkina Faso, voici nos dossiers du jour. Le gouvernement ivoirien a décidé de suspendre les opérations de déguerpissement à Abidjan, sauf pour des cas d'urgence. Cette nouvelle a été bien accueillie par la population, mais avec quelques déceptions. Les personnes impactées par les déguerpissements n'ont toujours pas été indemnisées. Le reportage de notre correspondant à Abidjan, Ange Nomenyo.
C'est une bouffée d'oxygène pour les habitants de la ville d'Abidjan. Le gouvernement a décidé de suspendre les opérations de déguerpissement pour une durée indéterminée dans la métropole. Une nouvelle bien accueillie par la classe moyenne qui était directement ciblée par les déguerpissements. Kofi Amoura, commerçant à Yopougon.
Dans tous les soucis actuellement, c'est quoi? Comment faire le décembre? Tout le monde sait qu'en Côte d'Ivoire, c'est le seul mois où tout le monde se défend normalement. Donc, la femme là, nous demandons pardon pour monsieur le gouverneur pour qu'il puisse laisser les femmes vendre en décembre. Là, après décembre, là, il peut venir faire son travail normalement. Parce que là, tout le monde sait que maintenant que le temps a été donné, que ça a été respecté.
Ce cri de cœur de ce commerçant de Yopougon est partagé par d'autres commerçants de la commune d'Adjamé. Les déguerpissements ont pris tout sur leur passage, mettant un frein à leurs activités. Mariam Bakayoko, commerçante à Adjamé, 220 logements.
Le temps, il n'est qu'à voir les mains. Le maire d'Adjamé n'est qu'à voir. Avec Bakongo, ça ne nous arrange pas. C'est dans ça, en pleine maison. Je ne suis pas mariée. C'est dans ça, en pleine maison. C'est dans ça, je nourris ma maman, ma mère. C'est dans ça, en pleine école de mon enfant. Ils ont cassé le coin, là, ça ne nous arrange pas.
Mokhtar Diko, commerçant à Adjamé, 220 logements.
Je viens de perdre un chiffre d'affaires de presque 20 millions. Voilà, 20 millions. Les bails sont quittés en Chine. Je n'ai pas eu le temps de vendre et voilà que je sors déjà les bagages. Voilà, donc j'appelle les autorités quand même à nous recenser et à nous donner quand même un site où on peut se débrouiller.
L'ONG internationale Amnesty International, qui suit l'affaire, plaide pour qu'il y ait un accompagnement des personnes impactées par les déguerpissements. Elle a fait une sortie la semaine dernière pour interpeller l'État ivoirien à ce sujet. Hervé Kokou-Delmas, directeur exécutif d'Amnesty International Côte d'Ivoire.
Un préjudice financier estimé à environ 650 millions de francs CFA en termes de pertes, selon l'association Agro Passe et Burné. Beaucoup de ces fermiers vivent une situation financière très difficile et ils ne vont pas pouvoir se relever sans une réparation juste et rapide de la part de l'État de Côte d'Ivoire. Nous demandons à l'État de Côte d'Ivoire de se conformer au droit international et aux principes de base des Nations Unies.
Les opérations de déguerpissement ont débuté en début d'année et se sont intensifiées avec la mise en place d'une brigade de lutte contre le désordre urbain. Elles ont ciblé presque toutes les communes de la ville d'Abidjan. Ange Bijounomeyon pour VOA Afrique, Abidjan.
Restez branchés sur VOA Afrique à Abidjan sur 99.0 FM en Côte d'Ivoire.
Au Gabon, une bataille pour la dépollution des plages a eu lieu le week-end dernier. L'opération intègre le programme Green Diplomacy de l'Union européenne à Libreville. Plusieurs associations de bénévoles et les services du nettoyage de la ville ont pris part à cet événement, comme le rapporte notre correspondant Ismaël Obianze.
Une petite armée de nettoyeurs répond à l'appel de la délégation de l'Union européenne à Libreville à dépolluer une dizaine de sites sur le littoral. Jean Martin travaille pour une société de ramassage d'ordures de la ville.
En permanence, c'est notre boulot, donc on ne peut pas regarder ce genre d'événements passés, on est toujours présent pour le bien de notre environnement et notre population.
Un vrai jour de combat pour des bénévoles qui vont à l'assaut des débris, déchets et détritus indésirables. La plage semble pourtant propre, mais elle ne l'est pas. Il faut chercher, fouiner et les cercles se remplissent vite. Frise Manguila, responsable projet du réseau gabonais pour l'environnement et le développement durable.
Il suffit d'un petit geste pour polluer notre planète, comme il suffit d'un petit geste pour améliorer notre planète. Il faut aussi reconnaître que l'implication des uns dans la propriété de notre planète entraînera à ce que nous ayons un pays plus durable, plus éco-responsable et que nous soyons vraiment un pays de propriété.
Une chasse au mauvais trésor avec au front des associations et ONG de défense de l'environnement. Christophe milite pour le recyclage des déchets à des fins économiques et financières.
Je dirais même de donner la possibilité aux Gabonais, pourquoi pas, de pouvoir se faire de l'argent en mettant des mécanismes en place, hein, justement, de recyclage, pour donner justement la possibilité à ces Gabonais de se faire des sous et de faire comprendre que on ne doit pas jeter les déchets dans les plages, n'importe où.
Des mégots de cigarettes, des plastiques, beaucoup de plastique. On trouve un peu de tout sur ces plages de Libreville après le passage des vents et marées. Dans cette pollution, la responsabilité de l'homme est engagée. Michel Delbras, représentant de la mairie d'Akanda.
Vous voyez, c'est vrai que la sensibilisation est quelque chose de nécessaire et qu'il faut être permanente. Mais il y a d'abord nos esprits qu'il faut changer. Les mentalités sont telles que l'incivisme a pris une place très importante dans le comportement de nos citoyens.
À l'échelle internationale, l'opération s'inscrivait dans l'engagement de protection de l'environnement. Une action pour réduire au maximum les risques de pollution sur la santé humaine, le climat et la biodiversité. Ismaël Obianze pour VOA Afrique, Libreville.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui. Retrouvez-nous aussi sur Internet, Facebook et sur votre portable.
Dans l'ouest du Burkina Faso, une langue se meurt lentement. L'ethnie Tifo, qui vit dans cette partie du pays, voit sa langue s'éteindre doucement depuis des décennies. À Noumoudara, l'un des principaux villages de cette communauté, les populations luttent pour redonner vie à leur langue avant qu'elle ne disparaisse complètement. La VOA s'est rendue à la rencontre des membres de la communauté Tifo afin de comprendre les enjeux de cette lutte. Suivez ce reportage de Gildas Da.
À son petit-fils, Badjuri Ouattara, guide touristique, tente d'inculquer les rudiments du Tifo, leur langue maternelle. Une langue en voie de disparition dans les villages de la commune, comme ici à Noumoudara, à 400 km à l'ouest de Ouaga. À travers un calepin où il note les mots de sa langue, cet homme de 71 ans est déterminé. Badjuri Ouattara, guide touristique et habitant de Noumoudara.
On a créé le bureau, on a fait un bureau pour les ethnies Tifo. Donc à travers ça, on pense que dans les années à venir, il y aura quelqu'un qui pourra nous financer pour la réhabilitation de la langue Tifo. Mais avant ça, nous-mêmes, on a commencé à réhabiliter ça à travers la population. La preuve est que j'ai des écrits. Moi-même, je suis à l'école actuellement. Voilà, les écrits de la langue Tifo. On a commencé à apprendre ça. Et puis, à l'école, on a commencé à enseigner ça aux enfants.
La situation est préoccupante. Un petit tour dans les rues du village nous donne une idée. Abdul Karim Ouattara, jeune de Noumoudara.
Je suis né trouvé aussi, mes parents aussi, nous aussi, on n'a pas appris. Ça nous dérange un peu.
Ladji Ouattara est aussi Tifo.
Non, je ne comprends pas Tifo. Souvent, si je viens, je pose avec papa. Celui qui m'essaie de me faire la
Et même Bassomé Ouattara, descendant d'un important chef guerrier, ne parle pas sa langue.
Moi, je ne parle pas Tifo. C'est un jeune homme, il s'est approché d'ici. Il a pris quelques langues, il s'est débrouillé. On a formé un livre sur ça. C'est ce livre-là qu'il est en train de nous enseigner.
Jeune, vieux, presque personne ne parle le Tifo dans ce village. La langue Djula ayant pris le dessus. La langue Tifo s'étiole depuis les années 1700, selon le guide Badjuri Ouattara.
Tifo Bois, donc c'est le premier chef de guerre. Donc c'est par son intermédiaire que la langue Tiofo a commencé à disparaître. Parce que quand il a été initié à Kong ce sont les Yula. Il est revenu avec une armée de Yula. Tu vas chez un chef de guerre pour t'exprimer, il y a un protocole. Donc, il faut obligatoirement parler les Yula. Si tu parles Tiofo, les Tiofo ont tes chicotes.
Selon ce guide, il n'y a plus que 3 villages qui parlent Tiofo, dont certains partiellement. Ici, on suit des cours de Tiofo avec pour espoir de reparler cette langue. Cette communauté dont un chef de guerre, Tiofo Amoro, entré dans l'histoire pour ses batailles, espère retrouver sa langue et sa fierté. Gildas Da, de retour de Numudara.
Et Yado, ça c'est ta femme.
VOA Afrique.
Restez branchés sur VOA Afrique à Ouagadougou sur 102.4 FM au Burkina Faso.
L'Iran devrait figurer en bonne place dans le programme de politique étrangère de la future administration Trump. Au cours de l'année écoulée, la République islamique s'est engagée dans une escalade majeure du conflit avec Israël, allié clé des États-Unis, tout en faisant progresser son programme nucléaire au point de pouvoir vite produire suffisamment de matière pour fabriquer une bombe. Michael Lipin, de la VOA, examine ce que le président élu Donald Trump et son équipe ont déclaré pour faire face à ces menaces. Récit de Yacouba Ouedraogo.
Lors de la campagne électorale cette année, Donald Trump, alors candidat à la présidence, a fait plusieurs commentaires conciliants à l'égard de l'Iran, un ennemi des États-Unis qui l'a ciblé par des pressions économiques et militaires au cours de son premier mandat.
Je ne cherche pas à être mauvais avec l'Iran. Nous allons être amicaux, je l'espère, avec l'Iran. Peut-être, peut-être pas, mais ils ne peuvent pas avoir d'armes nucléaires.
Les dirigeants islamistes iraniens ont prévenu cette année qu'ils pourraient renoncer à leur engagement de longue date de s'abstenir de développer des armes nucléaires si une menace extérieure pesait sur leur survie. Au cours de son premier mandat, Trump s'est retiré de l'accord conclu en 2015 par l'Iran avec les puissances mondiales pour réduire son programme nucléaire en échange d'un allègement des sanctions. Trump a déclaré qu'il cherchait à conclure un nouvel accord qui serait plus sévère pour Téhéran. En septembre, un journaliste lui a demandé s'il souhaitait toujours négocier.
Bien sûr, je le ferai. Nous devons passer un accord car les conséquences sont impossibles.
Un animateur de podcast a demandé à Trump s'il souhaitait voir les dirigeants islamistes de l'Iran remplacés par la monarchie qu'ils avaient renversée en 1979.
Nous ne pouvons pas nous impliquer totalement dans tout cela. Nous sommes réalistes.
Trump a adopté une rhétorique plus dure en réponse à l'attaque de missiles balistiques lancée par l'Iran contre Israël le 1er octobre. Il a noté que le président Joe Biden avait déclaré aux journalistes qu'Israël ne devait pas riposter contre les sites nucléaires iraniens.
Je pense qu'il s'est trompé. N'est-ce pas ce que vous êtes censé frapper? Mais quand ils lui ont posé la question, la réponse aurait dû être frapper d'abord le nucléaire et occupez-vous du reste plus tard.
Au cours de son premier mandat, Trump a frappé l'Iran avec des sanctions qui ont étouffé ses exportations de pétrole et avec une frappe aérienne qui a éliminé son principal commandant militaire, Qassem Soleimani. Il n'a pas dit au cours de la campagne cette année s'il utiliserait à nouveau de tels outils. Mais son candidat au poste de secrétaire d'État, le sénateur Marco Rubio, est un fervent défenseur de cette approche à l'égard de l'Iran. Dans un billet publié en octobre sur X, Rubio a écrit « Seule la menace de la survie du régime par une pression maximale et des mesures directes et disproportionnées ont une chance d'influencer et de modifier ses activités criminelles. » Parmi ses activités figure ce que le ministère américain de la Justice appelle un complot déjoué dans lequel l'Iran a recruté un Afghan pour organiser l'assassinat de Trump avant le jour de l'élection. Téhéran a nié toute implication, mais le conseiller à la sécurité nationale choisi par Trump a déclaré que l'Iran devrait en subir les conséquences. Le député républicain Michael Waltz s'adressant à l'Atlantic Council le 28 octobre.
Nous devons faire savoir haut et fort qu'il s'agit là d'une ligne rouge qui ne serait jamais tolérée par tous nos adversaires et qui aura des répercussions massives. Nous devons rétablir la dissuasion.
Ce que nous ignorons de l'approche du président élu Trump à l'égard de l'Iran, c'est le type de nouvel accord qu'il recherche et ce qu'il ferait s'il ne parvenait pas à en obtenir un.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet.
VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com. À tout de suite.
C'est la fin de cette session du monde aujourd'hui présentée par Nanit Talani. À la mise en onde, Firmin Max Kouyaouida, à la technique, Kelvin Fowler. Merci de votre écoute. Restez avec nous pour des reportages et des analyses approfondies tout au long de la journée. Pour plus de détails et de nouvelles en continu, visitez notre site web à voaafrique.com et nos réseaux sociaux Facebook, Instagram, X. Excellente journée.